Nous te louons, Seigneur. Merci pour toutes les paroles, tes paroles jusqu'à présent. Nous te donnons la réunion. Parle-nous nouvellement. Écris dans nos cœurs. Nous t'ouvrons nos cœurs, Seigneur. Seigneur, nous voulons complètement nous donner pour ton Église, pour ton dessein. Louez le Seigneur. Amen. J'espère que personne, j'espère que personne ne pense que nous avons autre chose dans Éphésiens 4 que ce que nous devrions lire. J'ai vraiment apprécié ce qu'on a entendu et je pense que le Seigneur a vraiment bien choisi ceci. Et ce soir, nous voulons continuer. Mais avant, j'aimerais revenir sur certains points. Peut-être que l'un ou l'autre, ou l'une ou l'autre personne, se souvient de ce qu'on a entendu à la conférence d'hiver. J'espère que tout le monde s'en souviendra. Nous avions Éphésiens 2. Et c'est très merveilleux, c'est ce que nous avons vu là-bas. D'où nous étions sortis, où nous avions marché dans les convoitises de la chair et dans ses œuvres, nous étions des enfants de colère. Mais le Seigneur nous a sauvés de tout cela, quoique nous ayons été morts. Mais à cause de son grand amour, il nous a rendus vivants avec Christ. Éphésiens 2, 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Oui, c'est vraiment merveilleux ce que nous avons vu. Et également, pendant ce temps-ci, nous avons vu à nouveau la vision de l'Église, comment Dieu a tout planifié depuis les temps éternels. Ce mystère qui maintenant seulement nous est révélé. Autrefois, il n'était pas révélé. Et là, je lis encore une fois dans Éphésiens 3, au verset 10, « Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. » C'est merveilleux. Par l'Église, Dieu a un plan tellement grand. Et ce matin aussi, nous avons entendu à quel point la parole est merveilleuse. Le Seigneur en est la réalité. Le Seigneur est la vérité. Il est aussi la réalité. Et nous avons aussi entendu que nous devons prendre une décision. Et je pense qu'il est important. Ce verset 17 est très fort. Personne ne dira pas « tu n'as pas le droit de faire telle ou telle chose ». C'est plutôt inhabituel aujourd'hui. Dans d'autres versions, il est dit « j'exige que je vous exhorte de ne plus marcher comme font les païens, comme marchent les païens ». Et après tout ce que nous avons vu en décembre et maintenant aussi, il faut vraiment prendre une décision. Le Seigneur n'a pas simplement montré cette vision pour que nous rentrions à la maison et continuions comme avant. Ce serait vraiment dommage. C'est possible, naturellement, mais il vaut mieux que tu obéisses comme Paul. Il a dit, tu ne dois plus marcher comme le font les nations, dans la vanité de leurs pensées. Quelque chose doit changer maintenant. Qui n'a pas encore pris cette décision? Rappelez-vous, prenez cette décision pour le Seigneur et pour son Église. Et j'aimerais aussi revenir sur ce méchant serviteur qui a eu des talents qu'on lui a confiés. Il a mis son talent en terre. Ça signifie quoi? J'aimerais poser cette question. Qu'est-ce que cela? Comment cela se passe-t-il? Ce que le Seigneur a mis en nous, comment est-ce qu'on peut l'enterrer? Nous en avons déjà beaucoup parlé. Comment nous pouvons multiplier nos talents? Et c'est bon. C'est bien ainsi. Mais ici, quelqu'un a enterré son talent. Matthieu 25, au verset 18. Mais celui qui en avait eu un, il s'en est allé et l'a caché, l'a mis dans l'a enterré. C'est possible donc. Un incroyant ne pourrait pas le faire. Il ne connaît rien du Seigneur. Il n'est pas sauvé. C'est seul un chrétien qui peut faire cela. Et à ma question, je vous lis Jean 3, le verset 31. Jean 3, le verset 31. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Nous pouvons enterrer notre talent. Nous sommes comme tous les autres si nous parlons d'une certaine manière. Celui qui est de la terre est de la terre. On ne peut rien cacher. Si tu es de la terre, si tu es terrestre, tu penses comme les hommes, tu parles comme les hommes, tu agis comme les hommes. Et ainsi, rien n'est exprimé de ce que le Seigneur a déposé en toi. Donc, tu as enterré ton talent. C'est ainsi. Et Matthieu 25, verset 18, il n'est pas parlé de talent, mais il est parlé d'argent. Et ce que le Seigneur nous a donné n'a pas d'expression, n'a aucune utilité. Et là, le Seigneur dit que c'est un serviteur méchant et paresseux. Et maintenant, je reviens dans Éphésiens 4, 17. Maintenant, vous comprenez pourquoi Paul a pu dire que vous ne devez plus marcher comme les païens. Et il exige qu'on ne marche plus comme les païens. Le Seigneur nous a tant montré et nous a tant donné. Comment pouvons-nous simplement continuer comme ça et simplement enterrer le talent? C'est vraiment méchant. Et ne pensez pas maintenant, ah, Paul est tellement religieux, parce qu'il dit, tu n'as plus le droit. Je n'ai même pas envie de le faire. Et si je le fais, je suis religieux. Et Yann, c'est oui et non. Il est bon que nous ayons une responsabilité. C'est important que nous ayons une responsabilité. Tu ne peux pas simplement dire, j'ai pas envie. Le Seigneur n'a qu'à faire quelque chose. Et pendant ce temps, moi, je regarde quelques séries. Non, rien ne changera alors. Donc, nous avons une responsabilité. Et néanmoins, ce n'est pas par nos propres efforts. Mais Paul dit, à juste titre, vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ça commence à cet endroit-là. Et au psaume 49, au verset 11, il est dit, le Seigneur connaît les pensées des hommes et sait qu'elles sont vaines. Et là commence la transformation dans nos pensées. Aussi longtemps que nous sommes dans Éphésiens 2, au verset 3, si nous sommes dans les convoitises de la chair, et donc en accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, aussi longtemps que nous sommes là-dedans, rien n'est exprimé de ce que le Seigneur nous a montré et offert. C'est pourquoi la transformation doit commencer dans notre pensée, dans notre intelligence. Et il y a beaucoup de versets où surtout Paul écrit que nous devons être transformés dans notre manière de penser. Si tu penses comme je l'ai pensé avant, tu dis je n'ai pas envie, j'attends que le Seigneur me saisisse, ou je ne sais trop quoi, on peut se le dire. Non, ça, ce n'est pas une pensée renouvelée ou une intelligence renouvelée. Et Colossiens 3, 1 à 3. Colossiens 3, 1 à 3. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, est-ce que c'est valable pour nous? Amen, répondent des frères et sœurs. Quelqu'un peut-il me citer un verset très clair? Oui, exactement, Éphésiens 2. Il nous, au verset 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, Éphésiens 2, verset 6, exactement. Donc, les versets dans Colossiens 3 comptent pour nous. Nous sommes ressuscités avec lui. C'est clair. Et maintenant, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Amen. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Ou en allemand, dirigez vos pensées, placez votre intelligence, placez vos pensées sur les choses d'en haut. Nous avons une influence à exercer. Nous avons entendu que cela dépend comment j'arrange ma vie. Est-ce que est-ce que je pose la question au Seigneur, où je dois étudier, qui dois-je épouser? Cela a une influence. Et des choses aussi plus petites. Ces dernières semaines, j'ai eu une situation difficile au travail. Et longtemps, j'ai dit à ma femme, mon chef. Et à un moment donné, un frère a témoigné ici, il a partagé, nous devons aussi prier pour nos collègues. Alors j'ai commencé à me tourner et j'ai remarqué, ah, mon chef a aussi un chef. Le Seigneur est le chef de tous les chefs. Et en fait, il y a quelque chose qui se produit quand nous plaçons nos pensées sur ce qui est en haut. Amen. Et Romains 12, verset 2, j'aimerais vous le lire. Amen. Donc Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. Oui, le siècle présent veut aussi remplir nos pensées. Et se transforme également. Ça a un effet sur vous. Nous l'avons lu dans Éphésiens, que les gens sont devenus étrangers à la vie de Dieu, endurcis dans leur cœur. Ça, c'est vraiment les effets de ce siècle, si tu t'occupes de ça. Les plus jeunes parmi nous connaissent cette situation, les plus âgés aussi, avec Facebook ou autre chose, et on peut se remplir de cela, et cela aura des effets. Tournez-vous vers le Seigneur, faites attention. Dans 1 Timothée 4, les versets 6 et 7, Paul avertit Timothée. D'abord, il dit 1 Timothée 4, au verset 6 et 7, « En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Christ, nourri des paroles de foi, de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Repousse les contes profanes et absurdes. Exhorte-toi à la piété. » Oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de sortes de fables dont se remplissent les hommes. Pas seulement comme des choses comme Harry Potter qui sont des fables, mais aussi dans le domaine de la politique. Il y a beaucoup de fables. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de vraie vérité là-derrière. Et nous ne devons pas nous remplir de cela. Si tu t'occupes de ce genre de choses, avec les choses de ce siècle, cela influencera ta marche, ta manière de penser. Et Paul le dit dans 2 Timothée 4. 2 Timothée 4, les versets 3 et 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Là, je ne peux dire qu'une chose. Ce que nous avons entendu ce matin, la vérité est la vérité. même si je me tourne vers les fables, la vérité est la vérité. C'est pourquoi Paul lui a donné un bon conseil, comme je l'ai déjà lu, dans 1 Timothée 4. Ah oui, 1 Timothée 4, le verset 6. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Nous avons une merveilleuse nourriture, comme l'on a entendu ce matin, la parole. De la parole, nous pouvons nous nourrir, remplir, et il y aura également des effets. Cela va te transformer, mais pour quelque chose de bon, pour ton bien. Cela transformera ton intelligence afin que tu puisses discerner quelle est la volonté de Dieu et ce qui est parfait. Notre intelligence est importante, que le Seigneur la transforme, la renouvelle, et d'où jaillira en fait, oui, la conséquence, ce sera notre marche en fait. Je retourne dans Éphésiens. J'espère que je ne vais pas trop de l'un à l'autre au niveau des versets, mais je ne voudrais pas vous raconter n'importe quoi. Je veux que tout soit basé sur la parole. Nous devons nous occuper de la parole. Et pratiquement aussi, on peut écouter des messages. Le matin, dans le train, tous ont des écouteurs. Mais on peut aussi écouter des messages, par exemple. Ou on peut aussi entendre la parole. On peut écouter la parole. Ou simplement la lire aussi. Il y a beaucoup de possibilités pour nous remplir de la parole. Ou alors, ou lire des livres spirituels, c'est une possibilité aussi. Je vous lis encore dans Philippiens 4, le verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Remplissez vos pensées avec la parole de la Bible, avec la parole que nous entendons ici. Cela aura un bon effet. Et, un peu plus loin, au verset 20, Éphésiens 4, le verset 20, Éphésiens 4, le verset 20, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. C'est de ce verset que vient le titre que j'ai donné, apprendre Christ. Peut-être que l'un ou l'autre a dit, là il doit y avoir une erreur, ce n'est pas apprendre. Mais naturellement, ça ne se passe pas comme à l'école, nous l'avons déjà entendu également. Je pense qu'on pourrait changer le titre ou le nommer apprendre à vivre avec Christ, apprendre à vivre en Christ. On pourrait dire beaucoup de choses, beaucoup de variantes. Jésus est la vérité et la réalité de cet homme nouveau que nous revêtons. Il s'agit de cela, c'est d'entrer dans la réalité et non pas comme à l'école d'apprendre simplement. Mais vous n'avez pas appris ainsi Christ. Non, le Seigneur n'est pas comme le monde. Donc, venons à lui, apprenons de lui. Non pas serrer les dents, et on revient sur ce que nous avons vu avant. Nous avons une responsabilité, mais néanmoins, il ne s'agit pas de me forcer, et maintenant je vais me comporter comme je pense que c'est bon que je me comporte, mais il s'agit d'apprendre Christ. Et le Seigneur est le meilleur enseignant. Il est pour nous. Et la grâce nous soutient, dit Paul aussi. Ce n'est pas moi seulement qui ai travaillé, mais c'est la grâce qui a travaillé avec moi. Un tel enseignant, un tel maître, nous en avons un, qui voudrait nous amener jusqu'au but. Il voudrait que nous croissions. Oui, tout ce que je dis est écrit dans ce cadre que le Seigneur veut bâtir son Église. Il ne s'agit pas de perfectionnement personnel par nous-mêmes, mais non, mais que tous nous croissions. Nous croissons individuellement sous la tête afin que l'épouse soit, le corps soit bâti et que quelque chose soit manifesté aux autorités célestes. Et le Seigneur a préparé toutes les situations. Donc, il est le maître, il connaît le but et il a aussi tout préparé afin que nous atteignions ce but. Et il aimerait que nous l'atteignions. Parfois, il y a aussi des enseignants et des entraîneurs qui apprécient le fait que quelqu'un ne réussisse pas. Ah, mais le Seigneur n'est vraiment pas comme ça. Il aimerait que nous atteignions le but. Donc, soyons comme les deux serviteurs appliqués. On retourne dans Matthieu 25. Allons-y. En d'autres versions, il est pour les deux en allemand, il est dit ils y vont simplement, ils y vont. Donc ceux qui sont laborieux, appliqués, ils y vont. Alors que le méchant esclave est parti. Au verset 16, 17 et 18, le méchant partit et les bons y allèrent. Je reprends la traduction allemande. Allons au Seigneur. Allons aux réunions. Allons chez les frères et sœurs. S'en aller est mauvais. Ah oui, s'en aller. Va au Seigneur, chez le Seigneur et apprends de lui. Et le Seigneur parle aussi au travers des frères et sœurs. Il n'a pas toujours besoin de te le révéler directement à toi. Mais si les frères et sœurs te disent stop, apprends aussi à expérimenter le Seigneur dans ces situations-là. En tout cas, vas-y. Et ne dis pas, ah, je suis offensé, je m'en vais. Tous ont été méchants face à moi. Moi, j'étais tellement gentil et pas les autres. Généralement, quand nous pensons cela, ce n'est pas juste ou pas. Et même si c'est la réalité, ce n'est pas une raison de partir. Et ce qui a déjà été évoqué, l'homme sage qui bâtit sa maison sur le roc, nous l'avions aussi vu à Stuttgart, nous l'avions entendu ici, ça m'a vraiment poursuivi, entre guillemets, ce qui est généralement l'inverse. Donc Luc 6, au verset 47. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé bien avant et a posé le fondement sur le roc. Donc, il est venu, celui qui vient à moi, qui entend mes paroles et les met en pratique. Voici la suite. Chez moi, c'est pas toujours comme ça. Parfois, je fais d'abord quelque chose, et ensuite le Seigneur me dit « ralentis un peu ». Et ensuite seulement je viens vers au Seigneur. Mais ce n'est pas la suite normale, enfin qu'on devrait avoir. Viens au Seigneur et tout ce que nous avons entendu pendant ce temps-ci, la vision et la réalité, il s'agit d'avoir la réalité. Et cela nécessite un peu d'exercice. Paul le dit aussi. Il parle de l'exercice à la piété est utile à tout. Et celui qui s'exerce fait des erreurs. Mais nous savons toujours que nous pouvons revenir toujours au Seigneur. Il pardonne et il dit de nouveau, va de nouveau au Seigneur. Et le Seigneur te pardonne. Et nous pouvons continuer le chemin. Même si nous faisons des choses à l'envers. Alors quand nous entendons que le Seigneur toque, là nous nous tournons. L'essentiel c'est de se tourner à ce moment-là. Mais là, ce qui est meilleur, c'est de venir d'abord au Seigneur, l'entendre et ensuite faire. Et en toute chose que nous entendons, comment l'Église doit être édifiée, nous devons apprendre du Seigneur. L'humilité, c'est le Seigneur lui-même. Il ne s'agit pas d'une manière ou d'une autre de le traduire en une certaine attitude, mais de venir au Seigneur et d'apprendre de lui. De revêtir le Seigneur lui-même. C'est dans Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Dans toutes les situations dans la vie d'église, à l'université ou à l'école, dans le travail, nous pouvons venir au Seigneur et nos propres efforts les déposer. Déposez aussi nos fardeaux au Seigneur. Et lui, il peut nous apprendre. Apprenez de moi. Apprenez de moi ou recevez mes instructions. Et m'a aussi donné la paix quand j'ai dit au Seigneur, « Seigneur, je te dépose tout dans mon travail. Je n'ai aucune solution. Que ce soit toi que tu t'en occupes. Tu as la bonne solution. Moi, je n'en ai pas. » Et alors, le repos est venu. La paix est venue. Avant, j'étais vraiment chargée. J'ai réfléchi à cela. En réfléchissant, si je dis ça, il pourra dire ça. Si je fais cela, lui, il pourra réagir comme ça. Donc c'est vraiment... Oublie cela. Dépose-le auprès du Seigneur. Apprends de lui. Et ce matin, nous avons aussi entendu « Le Seigneur est ma lumière et ma guérison » ou « Le Seigneur est notre médecin ». C'est dans Exode... J'ai pas compris. « Viens au Seigneur ». Et sois guéri par lui. Apprends de lui. Parle-lui. Va chez lui. Donc, emporte cela. Et non pas, ne t'en va pas, mais va au Seigneur. Va aux réunions, va chez les frères et sœurs. Va dans la communion, va dans la réunion de prière. Sois sage. Vas-y. Et pour terminer, j'aimerais encore lire un verset dans les psaumes. 62, le verset 9. Psaume 62. Le verset 9. Je l'ai trouvé très bon aussi. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Amen. Oui, tu peux aller au Seigneur. Et tu peux lui dire, je ne suis pas humble. Je n'ai pas d'amour. Et ça, c'est le point. Tu vas au Seigneur. Tu ne t'en vas pas. Et tu regardes un film, une vidéo, ou tu lis un roman. Non, ce n'est pas le chemin. Mais... répandre ton cœur devant le Seigneur. Ça, c'est ta responsabilité. Aller au Seigneur. Y rester auprès du Seigneur. Et pas simplement dire, ah ben, je n'y arrive pas. Donc ça, c'est trop peu. Mais, quand tu remarques que tu ne peux pas, alors va au Seigneur. Va au vrai médecin. Va dans la lumière. Va dans la guérison. Laisse-toi traiter. Et trouve la solution. Continue de le revêtir, lui. Et ne pas trouver la solution toi-même. Non. Ou essayer de voir comment ça se fait. Non, 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 non. Là, ce n'est clairement pas cela. Mais la responsabilité, c'est que vous ne devez plus marcher comme le font les païens. Ça veut dire, va au Seigneur. Donc, on continue dans Éphésiens. Il y a beaucoup de versets. C'est un exercice quotidien et qui continue dans le temps pour revêtir le nouvel homme. C'est un exercice constant. Éphésiens 4, verset 21, « Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. » En fait, il s'agit d'aller à lui. Et le Seigneur est la vérité, et la réalité, et elle est en lui, cette réalité. Et au verset 22, « Eu égard votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. » Nous avons le vieil homme. Nous l'avons déposé, ce vieil homme, qu'on utilisait dans notre marche précédente. Nous avons déjà entendu parler de la foi. La foi est la... amener en existence ce qu'on ne voit pas. Dans Colossiens 3, par exemple, Paul nous dit... Nous ne devons pas nous mentir les uns aux autres parce que nous avons revêtu le nouvel homme et on a ôté le vieil homme. Donc j'ai revêtu le nouvel homme. Alors, comment peut-il dire, ne vous mentez pas les uns aux autres? Mais il arrive quand même que dans notre vie quotidienne, nous soyons de nouveau dans le vieil homme. Mais nous pouvons nous tourner. Nous avons un avocat auprès de notre Père, Jésus le Juste. Et l'exercice à la piété est utile à tout. Exactement là, dans Timothée, Paul écrit, l'exercice corporel est utile à peu de choses. Donc tu peux faire un peu de fort, il n'y a pas de problème. Mais souviens-toi, l'exercice à la piété est utile à tout. Parce qu'elle a la promesse de la vie présente et de celle à venir. C'est merveilleux. Et c'est pourquoi aussi, soyons, efforçons-nous, on en a déjà parlé dans Éphésiens 4, le verset 3. Efforcez-vous de conserver. Et aussi dans Pierre, il est souvent mentionné dans 2 Pierre 1 que nous devons être appliqués, que nous devons nous efforcer. 2 Pierre 1, le verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la tempérance ou la maîtrise de soi, à la tempérance à la patience la piété, et à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel l'amour. Ça continue toujours. Il y a une vertu et puis une suivante et puis une suivante. Mais il faut persévérer, dit Pierre. S'efforcer, persévérer. Et au verset 10, de nouveau, c'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Oui. Que nos pensées soient placées sur cela. Oui, applique-toi avec ces choses-là. Va au Seigneur, lis la parole. Efforce-toi dans les choses spirituelles. Pourquoi sommes-nous tellement appliqués dans les exercices corporels qui n'est utile qu'à peu de choses? Quand nous avons l'occasion de nous exercer à la piété qui est utile à toutes choses. Et je reviens à ce qu'on a en dit ce matin. Non, Éphésiens 4, versets 15 et 16, que nous croissions, que nous ne soyons plus des enfants emportés à tout flot vent de doctrine par les vagues différentes. Mais nous devons devenir un homme mûr, pas seulement des hommes, mais un seul homme nouveau. Il s'agit de cela. Et c'est pourquoi que nous dirigeons nos pensées, parce que nous voulons croître et nous voulons aussi que le corps croisse, parce que le Seigneur s'est donné pour cela. Il nous a tant donné pour son corps, pas pour que nous enterrions ce qu'il nous a donné. Non, n'enterrons pas. Comment est-ce que tu dis? Ce qui m'a touché, c'est la question que je me suis posée souvent ces derniers temps, en étant avec des frères et sœurs. On a toujours de la communion, mais parfois je me suis dit, il y a quand même beaucoup de choses terrestres. Mais c'est un exercice. Un bon conseil, c'est toujours de se réunir avec des frères et sœurs pour prier. D'abord, 5 minutes, 10 minutes de prière. Le plus important, d'abord. Et louez le Seigneur. Cela produit de l'édification et de la croissance pour obtenir la stature d'un homme mûr, d'un adulte. Et pour finir, j'aimerais encore vous dire un peu quelque chose de sérieux. Oui, il est vraiment important de prendre ces décisions aujourd'hui. N'attends pas. Le Seigneur a déjà tout préparé et le Seigneur reviendra bientôt. Nous n'avons plus de temps à gaspiller. Et ce n'est pas une petite chose dont nous parlons maintenant. Donc il y a eu un Ésaü dans Hébreux 12 et il l'a pris d'une manière légère, la récompense, et il l'a même vendue à cause d'un repas aux lentilles, parce qu'il avait faim. Il a pris ce qui était devant ses yeux, et là, il l'a évalué plus grand ce qu'il avait sous les yeux que cet héritage qu'il aurait pu avoir plusieurs années plus tard. Et il est écrit, donc Hébreu 12, au verset 16 et 17. Donc, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine, non c'est pas celui-là, à ce qu'il n'ait ni impudique ni profane comme Ésaü, qui pour un mévent dit son droit d'aisnesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Son cœur était devenu trop dur, trop sombre. Il est devenu étranger à Dieu. Il aurait bien aimé avoir l'héritage, mais il n'avait plus cette chance-là. Mais il y a quand même un exemple encourageant. Pour finir, nous aimerions avoir un exemple encourageant dans Hébreux 11, 24 à 26. Il est question de Moïse. Vous savez qu'il a été élevé dans le palais de Pharaon en tant qu'un fils de la fille de Pharaon. Moi, je ne m'y connais pas bien, mais je pense que c'était un prince. Donc, à cette époque-là, la majorité des gens vivaient avec de manière précaire, sans instruction, et Moïse, lui, était dans un palais avec des princes. Que faisait Moïse? Hébreux 11, 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Amen. Oui. Dans la foi, regardons sur la rémunération. Il y aura une récompense pour le labeur. Le Seigneur reviendra pour l'Église édifiée, pour son épouse. Et concernant pour ses esclaves qui étaient fidèles avec les talents, il y aura une récompense. Il y a beaucoup de choses intéressantes que nous pouvons remplir de nos pensées. Et je pense que personne parmi nous n'est un prince. Et la décision aujourd'hui ne serait pas tellement difficile, parce que tu n'as pas besoin de travailler dans un champ à 30 degrés sous la chaleur. Chez nous, la décision est encore relativement facile. Elle n'est pas aussi difficile que celle de Moïse, mais lui aussi a regardé la rémunération et non pas ce qui était sous ses yeux. C'est pourquoi restons dans cet exercice de continuer à revêtir l'homme nouveau, de venir au Seigneur et d'apprendre de lui, et que nous entrions dans la réalité, qu'il nous amène dans la réalité. Amen.